Laudetur Jesus Christus.
Deux métropoles entièrement bouclées en Chine pour éviter la propagation de l'épidémie du nouveau virus apparu dans le pays, dont plusieurs cas ont été détectés à l'étranger. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, poursuit ses réunions d'urgence cet après-midi pour savoir si une alerte mondiale doit être décrétée. La Birmanie, sommée par la Cour internationale de justice de prévenir un éventuel génocide contre les Rohingyas, c'est une victoire pour cette minorité dont 750 000 membres ont été obligés de fuir le pays il y a près de 3 ans, après des violences de l'armée birmane. Commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, une quarantaine de dirigeants du monde entier sont réunis aujourd'hui à Jérusalem, avec en toile de fond la résurgence de l'antisémitisme. L'accord de Brexit enfin définitivement adopté par les parlementaires britanniques hier soir, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura bien lieu le 31 janvier à minuit, heure continentale.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. À l'approche du nouvel an lunaire, la Chine prend très au sérieux l'épidémie du nouveau virus apparu au cœur du pays. Après avoir décidé de mettre en quarantaine la ville de Wuhan, métropole de 11 millions d'habitants, les autorités ont suspendu aujourd'hui la circulation des trains à Wangang, autre métropole de 7,5 millions d'habitants et à seulement 70 km à l'est de Wuhan. Des mesures radicales pour éviter la propagation du virus, comme nous le confirme depuis Hong Kong Philippe Dova.
Depuis ce matin, 10h heure locale, Wuhan est complètement isolé du monde. Il est interdit d'en sortir et même d'y rentrer, sauf raison valable. On a vu des contrôles de police aux sorties des autoroutes où les policiers prenaient la température. Les personnes qui quittaient la ville avant 10h. Les stations-service ont été prises d'assaut. Toutes les festivités organisées pour le nouvel an chinois ont été annulées. Le port du masque est obligatoire à Wuhan, dorénavant. Il y a deux sortes d'angoisse pour les Wuhanais. D'une part, l'angoisse du virus, qui est bien réel, et puis un grand désespoir de ne pas pouvoir sortir de la ville pour rejoindre leur famille pour fêter le nouvel an chinois. Pour l'instant, ces mesures sont cantonnées à deux villes. C'est très impressionnant parce que en 2003, lors du SARS, la Chine avait mis beaucoup plus de temps à réagir. Mais en 2003, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc même si la Chine refusait de communiquer, parce que ça fait quand même un mois que le virus est présent à Wuhan, les réseaux sociaux chinois ont rattrapé les autorités chinoises. Et évidemment, c'est un sujet de grande inquiétude en Chine.
Philippe Deva, notre correspondant à Hong Kong, joint par téléphone, et on vient d'apprendre que la ville de Pékin annule les festivités du Nouvel An. Quant à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle n'a toujours pas pris de décision. La réunion d'hier a été prolongée aujourd'hui. Les experts doivent se réunir dès maintenant, en fait, à Genève pour savoir si des mesures à l'échelle planétaire doivent être prises. C'est une victoire pour les Rohingyas. La Cour internationale de justice a demandé aujourd'hui à la Birmanie de prévenir un éventuel génocide contre la minorité musulmane. Elle a également ordonné une série de mesures provisoires. Une première étape plus de 2 ans après la répression de l'armée birmane contre les Rohingyas en 2017, pendant laquelle plus de 750 000 personnes ont pris la fuite vers le Bangladesh. Les précisions à Rangoon de Sarah Bakaloglou.
Tour à tour, le président de la Cour internationale de justice a rejeté les arguments de la Birmanie pour qui la Cour n'avait pas la compétence de juger cette affaire. Devant les représentants birmans, la Cour a souligné que les Rohingyas en Birmanie étaient toujours extrêmement vulnérables et qu'il fallait des mesures provisoires pour les protéger. Parmi elles, que tout soit fait pour que les militaires ou des groupes sous leur influence ne commettent aucun acte de génocide ou n'incitent à le faire. Autre demande de la Cour, que la Birmanie conserve les preuves liées aux événements d'août 2017 dans l'état de l'Arakan. Enfin, le pays doit rendre des comptes dans 4 mois, puis tous les 6 mois sur les mesures concrètes prises en faveur des Rohingyas. Des mesures qui sont théoriquement contraignantes, mais reste à savoir si la Birmanie va se plier à ces demandes, car si le pays ne le fait pas, la Cour internationale de justice peut avoir recours au Conseil de sécurité de l'ONU, or un des membres est la Chine, alliée de la Birmanie. Plus tôt dans la journée, Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane, a publié un édito dans lequel elle a souligné, une nouvelle fois, que les mécanismes internes au pays suffisaient pour régler la crise des Rohingyas en Birmanie. À Rangoon, Sarah Bakaloglou pour Radio Vatican.
Fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, ce sont quelques-uns des délits dont est accusée Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais par la justice de son pays. Ces accusations interviennent après une série de révélations sur les conditions de son enrichissement par le Consortium international des journalistes d'investigation. Quelques 715 000 documents ont été étudiés et ont permis de voir comment une armée de sociétés financières occidentales, d'avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés de gestion ont aidé Isabel dos Santos à cacher des avoirs aux autorités fiscales. La fraude est estimée à 2,1 milliards de dollars. Réunion aujourd'hui à Alger des voisins de la Libye sur la situation du pays, une rencontre dans le cadre des efforts internationaux visant à favoriser le règlement de la crise qui oppose le maréchal Haftar et le gouvernement d'Union nationale. Sont présents les représentants de la Tunisie, de l'Égypte, du Tchad, du Soudan et du Niger, ainsi qu'un ministre allemand qui doit rendre compte de ses entretiens aux participants du sommet de Berlin qui a eu lieu dimanche dernier. Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, accueille aujourd'hui près d'une quarantaine de dirigeants du monde entier. Ils sont là pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, où plus d'un million de juifs ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une cérémonie où les dirigeants des alliés d'autrefois, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et de l'Allemagne, doivent prononcer les principaux discours. Une mobilisation internationale Delphine Allaire face à la hausse de l'antisémitisme dans le monde.
Oui Xavier, c'est au cœur du complexe de 20 hectares installé dans une forêt que le musée Yad Vashem, le plus grand mémorial de la Shoah au monde, accueille aujourd'hui ses chefs d'État. Lecture de prières, dépôt de gerbes et minutes de silence. Une cérémonie centrée sur l'hommage et le recueillement. Vladimir Poutine, Mike Pence, le prince Charles ou encore Emmanuel Macron doivent s'y exprimer. Des discours attendus sur l'antisémitisme aujourd'hui en hausse dans le monde. Mais cette cérémonie n'est pas non plus le moment d'unité si souhaité. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est l'objet de contestations politiques, source de tensions notamment entre la Pologne et la Russie. Vladimir Poutine a rejeté la responsabilité du conflit sur les pays occidentaux et la Pologne. À l'inverse, pour Varsovie, le traité de non-agression signé entre l'Allemagne nazie et l'URSS a servi de déclencheur de la guerre. Et le président polonais réfute toute complicité de son pays dans les crimes nazis, d'où son absence aujourd'hui, Xavier, à Jérusalem.
Delphine Allaire. Autre grand rassemblement ces jours-ci, le Forum économique mondial de Davos. Invité le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido. Il a demandé l'aide de la communauté internationale pour renverser le président Nicolas Maduro. Il poursuit ainsi une tournée internationale qui l'a fait passer par le Royaume-Uni, la Belgique et donc maintenant la Suisse. Il doit s'entretenir encore avec le président colombien Ivan Duque. Le projet de loi portant sur le divorce d'avec l'Union européenne a été finalement voté hier soir par les députés britanniques. Ils ont rejeté les 5 amendements déposés par les Lords mardi. Le Royaume-Uni quittera donc l'Union européenne le 31 janvier à minuit, heure continentale, plus de 3 ans et demi après le référendum. À Londres, Jean Jaffray.
Le Royaume-Uni a franchi la ligne d'arrivée. C'est féliciter le Premier ministre qui invite les Britanniques à aller de l'avant unis. En effet, les membres de la Chambre haute ont renoncé à la possibilité de navette entre les deux assemblées, considérant que les conservateurs ont une majorité de 80 voix aux communes depuis les législatives de décembre. Le projet de loi sur l'accord de retrait de l'Union européenne, négocié par Boris Johnson, porte notamment sur les arrangements financiers avec les 27 autres États membres, la protection des droits des ressortissants européens au Royaume-Uni et le statut spécial de l'Irlande du Nord, qui restera dans l'Union douanière pour préserver la paix. Certes, les Britanniques ne constateront pas de changement notable jusqu'en décembre 2020. Il reste à négocier les questions de sécurité et les futures relations avec le bloc des 27, qui représente 40% des échanges commerciaux du Royaume-Uni. Au vu des dernières interviews du ministre des Finances, on s'acheminerait vers un Brexit dur. Progressivement, le Royaume-Uni s'écarterait des réglementations et normes européennes avec perte de l'accès au marché unique. Les fédérations patronales s'en inquiètent. Enfin, une sortie brutale est toujours possible. Nul doute que les 11 prochains mois seront marqués par des polémiques avec Bruxelles. Les Brexiteurs, tout en admettant qu'il y aura quelques difficultés en chemin, affirment que le Royaume-Uni sera plus prospère. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
Vladimir Poutine avait promis un large débat autour de son projet de réforme de la Constitution. Eh bien, les députés russes ont déjà approuvé à l'unanimité et après moins de 2 heures de discussion aujourd'hui à l'ensemble des révisions constitutionnelles. La seconde lecture aura lieu le 11 février. Et puis plus de 20 000 arrestations de migrants au Mexique, bilan établi par les autorités hier. Depuis quelques jours, les heurts s'accumulent entre les caravanes de migrants qui cheminent vers les États-Unis et les forces de sécurité mexicaines. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.